Je vais essayer de vous parler de ce que j'avais proposé d'ailleurs dans l'argument. On m'a dit que c'était dedans, mais ça ne me semble pas tout à fait dedans. Ce que j'appellerais la politique du transfert, justement. Et ça va nous amener à, je pense, à dire quelque chose, à essayer de se mettre en direction de la dimension du mouvement dont on parle. Je parle au nom de l'insistance, qui est un mouvement. Et qui repose sur l'insistance du réel. Alors, j'ai proposé comme titre « La voix et le discours ». Dans la mesure où, dans ce que je vais essayer de dire, là, comme ça, avec vous, sans... Je sais un peu ce que je vais dire, mais je ne sais pas exactement ce que je vais dire, puisque je n'ai pas de notes. J'ai une certaine idée, quand même. Ce que je vais donc essayer de dire, c'est que ce fameux, non pas S de Grand Tabaret, Grand S de Grand Tabaret, le signifiant... C'est pas petit S, c'est grand S, est insaisissable. Et je trouvais d'ailleurs curieux que sur justement le programme, en face de grand S de grand tabaret, il y avait insistance, c'est tout. Il n'y avait pas de discutant, c'est un peu le hasard. Je trouve que c'était pas mal comme écriture. Et pour introduire quelque chose, et pour d'emblée introduire la dimension politique dans une perspective du transfert qui centre autrement les choses que en regard du développement scientifique, du discours universitaire où c'est le penseur qui apporte quelque chose, je pars de, eh bien justement, de la mythologie. Je pars de la mythologie. C'est une façon aussi pour moi de me mettre sous la protection de Phronesis, la prudence, et vous allez voir aussi de Métis, qui est aussi la déesse de la prudence, voire de la perfidie, mais enfin ça c'est justement toute la question, du transfert, la façon dont on reçoit, puisque la question du transfert, c'est surtout comment... On dit « est entendu », mais « est reçu quelque chose ». C'est la dialectique du mot d'esprit, le récepteur. Après, adviendra l'émetteur par un retournement pulsionnel. Donc, un jour, Zeus apprend par Gaïa et Uranos qu'une déesse, Métis, va enfanter d'une fille. Et ce qu'il est dit aussi à Zeus, c'est que quand elle aura enfanté d'une fille, elle va enfanter d'un garçon, et que ce garçon va prendre le royaume qui appartient à Zeus. Alors Zeus réagit. Alors nous, on peut penser Zeus, évidemment, on pense Zeus, on n'arrête pas de penser, justement. Ce qui nous est transmis dans l'histoire du mythe, mais l'histoire du mythe, c'est comme l'histoire qui se déroule dans le transfert, ce que je dis, il y a toujours en contrepoint la séance, c'est l'histoire, mais il y a autre chose que l'histoire, justement. Il y a la rencontre de l'histoire et on va dire de la structure. Ce qui est dit à Zeus, c'est que, effectivement, il est en danger. Alors Zeus trouve une solution devant cette signification, ce sens. La solution qu'il trouve, c'est d'absorber Métis. C'est une absorption, et au bout d'un certain temps, vous le savez, il va se poser la question de la délivrance la délivrance, c'est-à-dire que Zeus fait appel à Héphaïstos qui lui tranche la tête, et de cette faille naît qui ? Pas n'importe qui. Celle que Freud n'arrêtait pas de balader partout, Athéna. Et alors, et c'est là où j'en arrive, elle naît de cette faille, et elle naît, dit le penseur, j'insiste bien, le penseur, en poussant un cri de guerre. Premier point. Comment recevoir ce cri ? Pourquoi a-t-on interprété ce cri comme un cri de guerre ? C'est-à-dire que c'est une interprétation. Et comment articuler ce type d'interprétation avec le fait que Athéna, celle qui préside là, celle qui regarde Vienne devant le Parlement, les Viennois, au moment où Freud élabore la psychanalyse, comment articuler ce cri de guerre avec le fait qu'elle est en même temps la déesse de la raison, mais pas la raison des Lumières, pas cette raison-là, une raison tout à fait particulière, en mouvement, pas fixée par des mots, qui préside à la destinée des arts, de la philosophie. Donc, vous voyez qu'on est dans un discours quand même tout à fait particulier. Alors, est-ce qu'on peut rester sur cette apparente opposition ou s'il y a autre chose ?
Peut-être certains d'entre vous savent que la voix, le cri, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque je viens d'écrire un article dans la revue Insistance sur Mozart et le cri de Don Juan. Ça tombe à pic. Mozart, 250e anniversaire de sa naissance, plus deux jours, et où j'ai eu un jour, alors que j'entendais toujours de la même façon le cri de Mozart, c'est-à-dire le mode du penseur, de la culpabilité, la faille, il tombe dans le trou, la géhenne, le dissoluto punito doit disparaître, c'est une ordure. Un jour, moi, je l'ai entendu autrement, c'est-à-dire que je l'ai entendu dans une certaine hyper-affectivité, quelque chose qui n'était pas loin d'une certaine crainte. Et alors là, ça change tout. Autrement dit, je laisse ça de côté, ce cri était une réponse qui mettait en mouvement chez le récepteur, qui pouvait l'entendre, au moment où il pouvait l'entendre, ça nous renvoie à l'acte, à la façon dont l'acte peut soudainement advenir d'un nouveau temps, au moment où il pouvait l'entendre, il entendait quelque chose, on ne sait pas quoi, disons quelque chose qui est, en langue lacanienne, la prise en charge du symbolique, la prise en charge du réel par le symbolique, sans qu'on sache quoi, par définition.
Puisque ce cri, évidemment, immédiatement est interprété comme un cri d'horreur, de damnation, etc., alors que ce n'est pas tout à fait ce cri-là que moi j'entendais. Et donc, je suppose, et alors là, j'y vais, j'annonce la couleur, que le cri d'Athéna qu'elle pousse, c'est pas du tout un cri de guerre, même s'il est interprété par le penseur, comme l'analyste qui entend quelque chose et puis qui comprend, puis qui interprète, je dirais, c'est la même chose, quelque chose dans la voix de l'analysant. Je suppose qu'en fait, ce cri d'Athéna, j'ai rien contre le cri de guerre, c'est pas faux, mais c'est pas vrai, voilà la division. C'est une réponse à la présence, au sein de la présence de ce nouveau venu, de cette nouvelle venue qu'est Athéna, de cet ancêtre particulière, métisse, qui a à voir avec une certaine intelligence, je rajouterai féminine, qui a à voir avec quelque chose de l'ordre du féminin. Nous savons l'importance du travail de Lacan sur la dimension du féminin comme récepteur de quelque chose qui est au-delà justement, on va dire, du sens phallique et de toute cette dimension-là. Donc je ne vais pas insister là-dessus. À partir de là, vous voyez que
on en arrive à l'importance quand quelqu'un parle, et là j'en reviens à la séance, mais à l'analyse, et je pars finalement à contre-courant, c'est-à-dire que je pars de l'après-coup, de la fin de l'analyse, pour dire quelque chose, et non pas du déroulement historique de ce qui peut se passer dans une analyse. On est dans l'après-coup, hein, de quelque chose qui a pu advenir ou pas, c'est toute la question. Ce que Lacan appelle « vivre la pulsion au-delà du fantasme », ce que Lacan appelle aussi dans la proposition d'octobre 67, ainsi de celui qui a reçu les clés du monde dans la fente de l'impubère, l'analyste n'attend plus un regard, mais se voit devenir une voix. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Qu'est-ce que la voix dans le discours de l'analysant? Est-ce que c'est habituellement ce que l'on entend avec ses oreilles, ce qu'on va appeler le sonore?
Sans doute, mais ça c'est une imaginarisation du symbolique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, alors là je pense que je n'ai pas pu être là, mais vous avez pu en parler hier, c'est tout ce qui va permettre d'évaluer, de découper, d'examiner le son, mais aussi bien autre chose, pour dire, pour prendre la dimension de la fréquence, du timbre, du grain, de tout ce qu'on voudra, qui est importante. Mais la voix comme objet ptita, est-ce que c'est ça? Le 9 avril 1974, Lacan, devant l'assistance nombreuse qui est là, commence son séminaire en disant « S'il y a quelque chose que moi, Jacques Lacan, qui est là devant vous, en train de vous parler, a inventé, c'est l'objet ptita. » Il ne l'a pas inventé entre autres. C'est pas entre autres. C'est l'objet ptita. L'objet ptita, uniquement. Et durant ce séminaire, où il parle d'ailleurs, je vais très vite, c'est un séminaire, moi, qui m'a beaucoup sollicité, où il dit que, justement, l'analyste est à côté, c'est-à-dire à côté du discours scientifique, de la science, et à côté de l'art, et il dit qu'il est ce tiers qui est à prendre de la graine de l'art. Et je crois que c'est ça la dimension du mouvement qui est en jeu. On parlait de la danse tout à l'heure. On pourrait parler de la musique, évidemment, mais je ne vais pas trop en dire quelque chose là-dessus, ça nous en conduirait trop loin. Donc, j'en reviens à ce que je voulais dire. Dès lors que quelqu'un parle, est-ce qu'il est possible d'entendre dans ce composé mixte qui est sa voix, ces divisions entre le sonore qui s'entend avec les oreilles, qui va nous conduire à comprendre, qui n'est pas faux, et quelque chose d'autre qui a à voir avec ce réel qui vibre et qui est pris en charge par le larynx pour donner ce sonore particulier qui fait que le mouvement même pourra ou non être transmis dans la voix de celui qui parle. Et ça suppose, évidemment, de prendre en compte la dimension du temps. Dans ce même séminaire, Lacan évoque le fait que... Il dit, je vais vous raconter ça parce que ça vaut quand même la peine... Puis il y a un certain temps, donc je pense que celui dont je vais parler ne va pas se reconnaître, puis je ne vais pas vous en dire trop. Il y a un jour quelqu'un qui est venu me dire, qui est venu me voir pourquoi. Il est venu me dire que ce qu'il lui fallait, c'est ma voix. Ce n'est pas une voix qu'on donne quand on va voter, ma voix. Et il ajoute... La voix comme objet ptita, puisque c'est comme ça qu'il a commencé cette séance, et je vous la recommande, 9 avril 1974, les noms dupes. Ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que la voix, c'est difficile d'en parler, mais c'est certainement ce que vous, l'assistance, vous venez essayer d'entendre.
quelque chose qui ne s'entend pas au niveau du son, et quelque chose qui met le temps pour que mon discours s'organise d'une certaine façon, avec toutes les torsions qui étaient le sien. Donc l'objectita, comme voix, vous voyez, c'est quelque chose qui renvoie à autre chose, c'est quelque chose qui n'est pas ce qu'on appelle habituellement la voix, et qui fait que ça nous amène, et je vais bientôt m'arrêter, ça nous amène à ce qui est, à mon avis, transmis dans le transfert, dans une analyse. Ça nous amène à peut-être à ce qui, justement, dans une institution est problématique, je ne sais pas, on pourra en discuter, à ce qui peut être transmis dans le transfert. J'ai une certaine idée de ça, je crois qu'il y a des musiciens ici. Est-ce que finalement, ce qui pourrait peut-être pas être transmis dans le transfert, par la, de l'analysant à l'analyste, mais aussi bien de l'analyste à l'analysant, c'est quelque chose que ce qu'on appelle en musique le tempo. Le tempo, c'est compliqué le tempo, c'est pas la vitesse. Le tempo, c'est ce qui fait qu'il faut exactement le temps nécessaire et que ça ne s'apprend pas nulle part. Le temps nécessaire pour qu'entre deux sons, il y ait juste l'écart, pas trop grand, pas trop petit, de telle façon que chacun des deux fasse entendre, on va dire, l'arborescence qui est l'harmonique d'un son. Vous savez qu'un son, si je joue au piano un do, en même temps sans le savoir, je joue le do qui est à l'octave au-dessus, et je joue en même temps le sol, c'est-à-dire la première octave du sol, et la deuxième octave du mi. C'est-à-dire je trouve du coup l'accord parfait do mi-sol, mais je joue tout ça. C'est-à-dire je ne joue pas que la, je ne joue pas que la fréquence du do. Je joue tout ça. Et donc, dès que un son est émis et qu'un autre son va venir, dans le continuum indispensable qu'il est nous, il y a un silence. Et la supposition qu'on peut faire, et là on n'est effectivement pas dans la musique, on est sur la marge du transfert et de la voix de l'analyste, parce que ça marche aussi bien chez l'analyste que chez l'analysant, ce dont je vous parle. Hein. Il n'y a pas d'un côté l'analysant, puis de l'autre côté l'analyste, ça c'est trop facile. Hein. Parce que c'est en fait l'analysant qui va authentifier quelque chose qui sera passé dans la voix de l'analyste. Évidemment, ce n'est pas l'analyste, il va être surpris après. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à un moment, pour que finalement, pour sortir de la répétition, on sait bien que ce n'est pas l'interprétation avec les mots qui fait sortir de la répétition. Qu'est-ce qui fait sortir de la répétition? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui passerait par le corps? Évidemment, l'acte analytique, à l'insu, complètement à l'insu de celui qui transfère, porte, trans, cette vibration, cette pulsation particulière. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas à un certain moment quelque chose qui n'est pas sans rapport avec ce que j'évoquais tout à l'heure, avec le fait d'être affecté, avec une certaine angoisse, mais ce n'est pas l'angoisse qui arrête? Et est-ce que, dès lors, que ça peut advenir, ça ne pourrait pas redéclencher le mouvement qui, justement, et c'est ça une des définitions du symptôme ou du petit S de grand A non barré, c'est que le mouvement, c'est le symptôme, c'est la fixité. Fixité. On peut dire que vraiment, une des façons de définir le mouvement, c'est la fixité. C'est aussi bien. Et ça, c'est médical, je dirais. C'est le fait d'avoir mal à un endroit précis, ça reste bien fixé, mais c'est aussi le fait d'être pris toujours par les mêmes pensées, par exemple. C'est la fixité, et que donc, la grande énigme, je dirais, du transfert, c'est ce qui peut faire que cette fixité peut soudainement tomber, alors qu'autrement, elle ne cesse de tourner. Vous savez qu'il y a un moment, Lacan passe du Saturne, la révolution copernicienne, et il dit que ce n'est pas du tout ça. L'avancée, ce n'est pas le Saturne de Copernic, contrairement à ce qu'on pense. Parce que ça continue à tourner, même si ce n'est plus tout à fait le même centre. Après toutes les révolutions, vous savez très bien que ça change. C'est plus la même personne qui est au centre, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Le problème, c'est la subversion. La subversion, c'est le Satombe. Et je crois que le Satombe, qui apparaît avec Newton un peu plus tard, c'est effectivement ce moment de l'objet petit a, le ratage. Ça ne veut pas dire du tout que c'est raté, ça veut dire que c'est réussi, mais du côté d'un certain type de silence, dans ce que j'ai essayé de vous présenter, qui est dans la voix. Et c'est ça, sans doute, qui est au cœur de l'œuvre d'art, et c'est ça qui peut rapprocher, je m'arrête là-dessus, et c'est ça qui peut rapprocher le transfert de ce qu'il en est de cette création. Pour moi, une analyse, c'est une création. C'est pas, bien sûr qu'il y a la perte, comme on dit, mais c'est pas une perte, une pure perte. C'est une perte qui conduit à une création. Et je vais terminer sur la façon dont Lévi-Strauss, parce que on parlait d'ouverture, tout là, je crois qu'on a tout intérêt justement. C'est l'importance pour Lévi-Strauss des mythes et de la mythologie. Alors. Même que j'ai commencé là-dessus, j'ai terminé sur un livre que je vous recommande qui s'appelle « Regarder, écouter, lire » de Claude Lévi-Strauss de 1992, édité chez Plon, et qui dit ceci. Alors dans ce livre, il parle de la peinture, de la musique et de Rimbaud dans son sonnet voyelle, essentiellement, et puis d'autres choses. Il dit « L'œuvre d'art. » Je pense que c'est ça. C'est une façon de parler du transfert et de l'analyse. L'œuvre s'établit en deçà et au-delà des intentions de son auteur. Celui-ci en perd le contrôle sitôt qu'il l'a créée et elle se développera selon sa nature propre. Fin de l'analyse. Enfin, c'est mon commentaire. Autrement dit, la seule façon pour l'œuvre d'art de se perpétuer et de donner naissance à d'autres œuvres d'art, qui aux contemporains paraîtront plus vivantes que celles qui les ont immédiatement précédées. Et il termine là-dessus. Supprimer au hasard 10 ou 20 siècles d'histoire n'affecterait pas de façon sensible notre connaissance de la nature humaine. Vu à l'échelle des millénaires, les passions humaines se confondent. Le temps n'ajoute et ne retire rien aux amours et aux haines éprouvées par les hommes, à leurs engagements, à leurs luttes et à leurs espoirs. Jadis et aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes. La seule perte irremplaçable serait celle des œuvres d'art que ces siècles auraient vu naître. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.
Je voudrais commencer par vous interroger, pas du tout dans la chronologie de votre texte, sur quelque chose qui me paraissait, j'allais dire, pas forcément contestable, mais très exagéré dans votre propos, quand vous dites que dans l'interprétation, ce ne sont pas les mots qui marchent, qui sont efficaces. Vous disiez que ce n'était pas les mots.
Il s'agit de la répétition.
Dans l'interprétation qui permettrait effectivement de faire chuter le symptôme et sortir d'une répétition. Bon, est-ce que ce n'est pas aller un peu loin ? Parce que je ne vois pas les mots comme tellement désincarnés. Vous parliez de la supériorité effectivement de l'effet sur le corps. Je crois que les mots, ce n'est pas très désincarné. Enfin, il me semble.
J'ai bien dit les mots, hein. Le verbe,
oui, les mots.
J'ai pas dit signifiant, hein.
Non,
les
mais
mots. Les mots, hein.
Je parle des mots justement en tant que, disons, voix articulée dans quelque chose qui va pas forcément avoir un sens au niveau de la logique. Des fois, une interprétation, ça consiste aussi à oser dire une stupidité.
J'ai déjà dit, je peux vous dire une chose très simple, j'ai déjà dit ici. Un jour, quelqu'un qui était complètement dépressif, vraiment la dépression, on aurait dit mélancolique en psychiatrie. Simplement lui dire bonjour, Bonjour. Disparition de la dépression. Donc c'est pas le mot. Ça passe par le mot, parce qu'il y a le son du mot. Mais c'est pas le mot, c'est pas la signification du mot. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a ouvert une porte extraordinaire. C'est tout ce que je
fais. Et moi, je dirais, dans ce que vous dites, je crois que c'est la signification du mot et pas le sens. Je veux dire, il ne s'agit pas de faire l'exégèse en disant que si on dit bonjour à quelqu'un, ça veut dire qu'on souhaite que sa journée soit bonne.
Mais c'est la fonction de l'adresse aussi.
Si on parle là-dessus, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Je veux bien qu'on parle là. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Comment on pourra me dire quelque chose là-dessus?
C'est pas un contexte. Si tu donnes pas le contexte, on peut lui montrer.
Non, quelqu'un qui est très dépressif, qui ne peut plus parler.
C'est pas un comportement.
Non, c'est pas lié à l'histoire. C'est vraiment pas lié à l'histoire ce qui s'est passé à ce moment-là.
Non, mais je crois. Est-ce que c'est pas dans l'efficace d'un transfert? Est-ce que c'est pas dans l'efficace d'un transfert, même si ce monsieur n'était pas sur votre divan? Il y a transfert.
Oui, mais c'est quoi le transfert là?
Ben, justement que comment dire que ce monsieur se trouve digne que vous lui adressiez la parole, de même que vous l'avez trouvé digne, si délité soit-il, de lui adresser la parole. Je crois qu'il y a des effets de transfert. Enfin, il me semble, là, je ne sais pas.
Alors pourquoi les autres fois que je lui disais bonjour, ça ne marchait pas? Alors il y a eu quoi? Il y a eu quoi?
Oui.
Mais si on me demande, tu as raison. Tu as raison. Ça, c'est quelque chose que je peux en transmettre quelque chose, mais je ne peux pas l'expliquer. Par définition.
Oui. Oui.
Oui. C'est ça.
Vous avez une question là-dedans.
Alors moi, je vais vous dire ce qu'il a dit après. Ce qu'elle a dit, c'est une femme. Ce qu'elle a dit après, parce qu'elle est allée sur le divan immédiatement, sans problème, légère. Elle a dit, vous m'avez regardé comme jamais vous m'avez regardé, et votre voix, j'ai entendu dans votre voix quelque chose que je n'ai jamais entendu. Mais ce qui est important, c'est ça là, c'est que moi, j'ai dit bonjour comme d'habitude. Non mais attends. J'ai dit bonjour comme d'habitude. Le prof. En fait, elle a entendu à ce moment-là ce que j'essaie de dire. Je sais pas, je peux pas en dire plus. Elle a entendu qu'il y avait autre chose. Quoi? On n'en sait rien. C'est quelque chose qui a à voir avec elle. Mais elle a entendu autre chose.
Monsieur.
Oui, sans la musique, oui.
Mais ce que tu viens de dire, justement, montre bien que quand on isole un objet A, la voix, aussitôt il y en a un autre qui vient par exemple le regard. Et c'est là d'où vient la parole analytique, c'est de l'intersection de deux objets A. Et ça fait quoi, je disais. Si elle a qu'un, ça ne marche pas, c'est quelque chose qui évoque le système de l'extase. Mais là, il y a quelque chose de fondamental que tu dis dans ton rapport à ta recherche. Et moi, c'est une question que je pose. Est-ce que dans cette mise en continuité entre psychanalyse et art, il n'y a pas quelque chose qui peut être mis, c'est le religieux? Est-ce qu'il y a une croyance dans la voix, dans la tradition, qui fait que la voix devient quelque chose qui ne peut pas être exprimé par autre chose que par la voix? Or là, tu viens de dire exactement un point intéressant aujourd'hui, c'est le regard. regard et voix, souvent se rencontrent. Et ça fait intersection, ça fait ce que tu appelles on ne pourra jamais savoir. Que si on peut savoir, si je veux dire, on peut savoir, si il y a une écoute, il y a la dimension de la lettre qui va surgir. Et si cette lettre-là est prise en compte dans l'écoute, et quelque chose d'autre vient à surgir, qui fait qu'on ne peut pas idéologiquement isoler un objet à tout seul. Tu vois, c'est ça qui m'apparaît vraiment important dans ton propos, et que je pose comme une critique. Et si on n'introduit pas le religieux, c'est comme s'il fallait introduire le religieux pour qu'il y ait continuité. Or, effectivement, là, on a quelque chose de très compliqué pour la psychanalyse si on introduit le religieux.
Mais il y a beaucoup de croyances, mais peut-être pas religieuses.
Oui, voilà.
Enfin, la croyance.
Et ce que là, c'est pas ça. Alors, moi, j'avais l'impression que ce que vous me dites là, c'était justement ce que vous m'avez corrigé, ce second S de la main.
Non, ce que Lacan écrit comme une lettre, hein, tout ce qu'il écrit, les baptêmes, c'est des lettres, c'est-à-dire que c'est du réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce qu'il écrit, ce n'est pas du sens. Néanmoins, c'est une façon pour lui, c'est ça ses écrits. Ses écrits, ce n'est pas quelque chose qu'il va le dire, ce n'est pas quelque chose qu'il est à comprendre. C'est fait pour mettre en mouvement les écrits. C'est pas fait pour comprendre. C'est pas fait pour comprendre, c'est pour ça qu'il a fait des écrits. C'est pas évident du coup. On y entend de la musique, on y entend ce qu'on voudra, du son, ce qu'on voudra. Ce que je veux dire, donc c'est ça qui me semble important. Et par exemple, le premier rêve de l'injection Irma, c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Alors on voit la formule de triméthylamine, mais quand il en parle dans son séminaire, il dit une voix. C'est une voix qui dit, et on voit, et j'ai bien fini là-dessus, ce voix devenir une voix. C'est de là que je parle. Moi, je parle de ce qui semble être la fin de l'année. Donc, je parle de là. Donc, on peut tout à fait, évidemment, dire toutes sortes de choses. Mais moi, c'est mon point de départ, c'est l'après-coup de la fin de l'année. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Dans le transfert, avec cette impatience. Pas beaucoup. Une main est nettement suffisante. Ça se passe avec deux probations. Mais quand ça a lieu, ce que je vais essayer de dire, c'est pas une histoire d'objet. Hein, bien sûr qu'il y a toujours tous les objets qui sont en jeu. On est d'accord, c'est pas le problème. Je prends la voix là pour isoler un peu quelque chose, parce que je vais pas faire un cours de trois quarts d'heure sur. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que dans la voix, il y a ce rattache, c'est-à-dire ce reste, ce silence. Finalement, la musique, c'est quoi? C'est du son qui est jeté dans le silence. Ça, c'est John Cage qui dit ça. C'est pas n'importe qui, c'est un musicien tout à fait particulier. Hein. Quand vous entendez le cri de l'onjeu, en fait, c'est du silence qu'on entend, alors qu'on entend du son. Mais comme on est tordu, on entend du son, en fait, c'est du silence qu'on entend. Et là, quand on va reprendre ça avec le cri de Munch, le cri est le silence. Le cri est le gouffre où le silence se rue. Moi, je rajouterais où le silence se ruine. C'est les ruines qui comptent. C'est autre chose, c'est pas. Si vous descendez le boulevard Saint-Michel et que vous regardez chez les ruines où a été Julien Laposta, où il a été consacré empereur en 306, c'est quand même quelque chose, je veux dire, les ruines, les choses muettes qui se mettent en mouvement, qui se mettent à parler. Ça s'entend pas avec les oreilles. C'est un peu de ça dont je parle. C'est ça, moi.
Pourquoi tu ne parles pas de signifiant alors? Parce que tout ce qui se discute sur objet, signification, sens, mot, silence,
alors, je vais dire pour...
temporalité, etc. Pourquoi est-ce que...
C'est très intéressant ta question. Je vais dire pourquoi. J'en ai parlé du signifiant, mais je ne l'ai pas nommé. Je pense que c'est le tempo. Le signifiant, c'est ce qu'on appelle en musique le tempo. Le signifiant représente le sujet pour le signifiant. C'est ce que j'ai dit du tempo. Je ne sais pas si c'est
musicien. Alors, à ce moment-là, la critique, c'est pourquoi est-ce que tu veux réduire le signifiant? Tempo, n'importe quoi, accessible, ouais, c'est tout ça. Et non pas considérer que c'est n'importe quoi qui puisse le soutenir. Autant les mots que la signification, qu'une proposition, qu'une ponctuation, qu'un silence, etc. Autant un regard qu'une voix.
Je n'oppose pas, j'ai essayé de parler de la voix,
quand
notamment.
Tu dis, c'est dans le. Voilà. Mais alors, c'est dans le, ça prend un côté, quand tu le dis, exclusif vis-à-vis de tout le reste qui est aussi bien signifiant.
Non, ce que je voulais surtout essayer de parler, parce qu'en général, il y a eu un colloque sur la voix, notamment le Lacan. Ça remet tout, ce que je viens de dire, remet tous, la plupart des choses qui ont été dites dans ce colloque, parce que le problème, c'était pas d'être charmé par la voix de Lacan ou de pas en vouloir. c'était d'entendre autre chose. Donc on est toujours divisé entre le son et puis ce qui justement rate dans le son. C'est un peu de ça dont j'ai parlé.
Oui.
Tu vois ?
Tu dirais que c'est, puisque c'est après coup,
oui.
Est-ce que tu dirais que là, il y a eu justement peut-être chute du semblant d'analyse ?
Oui.
Bon.
Du semblant, oui.
Voilà. S'il y a chute du semblant d'analyse, il y a effectivement un effet de réappropriation par l'analysant de quelque chose qu'on a entendu.
Oui.
Ben, ça, nous le disons chaque fois que ça se produit. Mais c'est justement, c'est parce que tu mets en scène, tu mets en jeu un semblant et que l'analysant finit par, si tu veux, en sortir.
Je oui, mais... par rapport à votre question,
oui, mais c'est pas...
est-ce que passer du tempo directement au signifiant, c'est possible dans la mesure où en musique, le tempo est préinscrit d'avance. Vous avez en haut de la partition où
non, non,
vous
non,
avez la portée. Vous alors, avez du 2-4 ou vous avez...
C'est... Ça, c'est pas le tempo. Ça, c'est pas ça que j'appelle le tempo. Ah, le tempo que... n'est pas écrit sur la partition.
Non, mais moi, je ne dis pas que le signifiant...
D'accord.
C'est pas ça. C'est pas ça.
Il y a la parole, il est au discours.
C'est la mesure, c'est pas vrai. Attention.
Mais simplement, ma critique porte bien sur le fait que Jean focalisait ce qu'il en était du signifiant en omettant le terme sur tel point ou tel autre, mais à l'exclusion de ce qui peut, du reste qui en est aussi bien du sport. Bon. Alors, je veux bien qu'il faille peut-être à un certain moment, comme dans une phrase, on ne peut pas tout dire, faille bien, même dans un bonjour, on va focaliser le signifiant dans le bonjour, sûrement. Il n'en fait qu'il y a tout le reste et c'est un enchaînement. Là où tu veux du mouvement, il y aura de l'enchaînement constamment. Et donc, ce n'est pas sur un point précis que ça vaudra. Ça vaudra dans l'articulation avec le reste. Et là, tu as ton mouvement. Sinon, tu as l'air de te contredire.
Est-ce que...
Je ne vois pas bien.
Est-ce que...
Je ne vois pas ce problème.
Donc, c'est bien.